Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Si vous êtes passionné par la lecture, si vous souhaitez découvrir l'univers artistique de vos auteurs préférés et mieux comprendre les coulisses du domaine du livre, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Je suis Assel Nadal, entrepreneur littéraire, et j'aide les auteurs indépendants à mieux comprendre l'auto-édition, à construire une stratégie digitale simple et efficace pour publier et promouvoir leurs livres. Tous les vendredis, retrouvez-moi pour accueillir un acteur du secteur du livre. Choisissez votre place dans le Salon du Livre et installez-vous bien. C'est parti pour un nouvel épisode. Je le découvre en 2017, lors de la publication de son livre, Mr. Fix It, première traduction d'un livre en lingala vers l'anglais, dont le titre original est Ebamba Kinshasa Makambo. Et depuis, je le suis et je m'intéresse à son travail dans la promotion du livre africain. Il a travaillé avec d'autres à lancer des prix littéraires importants sur le continent. Il est écrivain, traducteur, éditeur, lauréat du prix Mark Twain en 2009 de l'ambassade des USA à Kinshasa avec sa nouvelle Le cauchemar d'Est de Tabou. Il est aussi responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Il s'appelle Richard Ali et il est mon invité aujourd'hui dans le podcast. Bienvenue Richard.
Merci beaucoup Assel. En tout cas, je suis ravi d'être l'invité de ce numéro d'aujourd'hui. Merci infiniment.
Ben c'est moi aussi qui te remercie d'avoir accepté mon invitation malgré tes multiples occupations. C'est vraiment un grand honneur de t'avoir ici. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, bien que j'ai déjà fait une courte présentation, mais nous ici dans le podcast, on veut toujours aller un peu plus loin que la présentation officielle. Voilà.
Alors, j'ai beaucoup aimé la présentation que tu as faite hein, de moi. C'est très juste. Je venais récemment de publier mon dernier roman, voilà, qui s'intitule Et les portes sont des bouches. Mmh. Et voilà, mon travail d'écriture, en tout cas, est à cheval entre deux écritures, donc le lingala et le français, à part. Et Bamba Kinshasa Makambo, j'ai aussi écrit au Kuzunga Maboko Pamba Lingala. Et voilà donc. Alors, pas grand-chose à compléter. Peut-être là, c'est un peu la vie privée, mais c'est aussi important pour que j'en sache. Voilà, Richard Ali est père d'une famille, donc de deux petits mignons garçons.
Ah, voilà. Félicitations.
Peter et Kenneth, donc et sa femme s'appelle Jemima Moussamba Ali. Donc je travaille actuellement comme responsable de la bibliothèque Wallonie-Bruxelles à Kinshasa. Mmh. Et aussi actuellement je suis président de l'association des écrivains du Congo, voilà, du Congo RDC Kinshasa. Faut toujours préciser ça parce que très souvent on confond les deux Congo. Moi souvent on a l'écrivain du Congo Brazzaville. Ce que tu as eu à faire comme présentation sur ma personne était très juste et voilà, voilà, peut-être en échangeant, il y a des éléments qu'on pourra compléter.
Certainement, hein, certainement. Mais je suis content d'avoir bien appris ma leçon. Par contre, je vais creuser, hein. Je vais creuser. Moi, quand je suis avec mes invités, j'aime aller un peu loin que la surface, un peu plus loin que la surface. Moi, j'aimerais connaître qui est vraiment Paralie, hein. Alors, comment tu as commencé ton parcours dans le monde des livres? Est-ce que c'est depuis ta tendre enfance ou alors tu découvres ça quand tu es déjà adulte? Comment ça se passe chez toi?
Richard Ali, voilà, pour bien préciser un élément hein, sur mon nom. Donc, le nom complet, là, c'est Richard Ali Amuntu Bin Kahambo. Ce qui est connu de tous, c'est Richard Ali tout court, mais dans l'ensemble, c'est vraiment Richard Ali Amuntu Kahambo. Très souvent dans mes livres, voilà, c'est écrit Richard Ali Amuntu K. Le K. c'est Kahambo. Mm-hmm. Et donc je viens dans le monde de la littérature. Je crois que la passion a démarré évidemment tout petit. Ça je découvre quand je suis devenu adulte, j'essaie de me remémorer les petits éléments qui m'intéressaient déjà, qui étaient des éléments qui me mettaient dans la voie de la littérature, tu vois. Le fait que, en étant à l'école primaire, et quand on apprenait à écrire, déjà, moi, j'étais passionné, le fait de voir des adultes prendre un stylo, une feuille qui est blanche, et se mettre comme ça à faire des lignes, tu vois. C'est vraiment, moi, ça m'est passionné. Je me disais, mais je voudrais bien un jour arriver à écrire comme ça. Donc, c'est hein, juste remplir une feuille blanche comme ça. Donc, déjà ça, je me dis toujours, mais tiens, cet élément était quand même déjà intéressant quand j'étais tout petit. Je me souviens aussi un moment quand on avait des récitations, je me disais, mais tiens, pourquoi est-ce qu'un jour il y aura pas un texte ou un poème de moi dans un livre, un manuel scolaire? Donc, mais je savais pas que ceux qui l'ont retrouvé dans ces livres-là, on les appelait des écrivains ou des auteurs. Tu vois un peu ce que je veux dire.
Oui.
Là. Donc après, mais le déclic arrive vraiment quand les déclics arrivent, quand je suis au cycle de d'orientation, on appelle ça chez nous secondaire. Je suis en première année CO et c'est ma mère qui, comme ça, par hasard, me ramène une anthologie de la littérature francophone d'Afrique centrale.
Oui.
Par hasard, en tout cas. Je ne sais pas ce qui lui avait poussé, mais vraiment par hasard, comme cadeau, voilà, pour mes résultats de trimestre, d'une période, voilà. Il me ramène ça comme cadeau. Et vraiment, je crois que c'est bizarre ce coup de hasard-là, parce que je ne sais pas si elle-même, elle savait que j'étais passionné, ou j'avais envie de lire à tout temps, non. Mais c'est vraiment ce livre-là qui va vraiment me donner le vrai goût de pouvoir imiter ces gens que je lisais. Parce que c'était devenu pratiquement un livre de chevet. Moi, ça m'a permis d'avoir une idée un peu plus juste de tout ce qu'il y avait comme littérature d'Afrique centrale, parce que je lisais cette anthologie-là pratiquement chaque jour.
Oui.
Et j'avais vraiment envie d'écrire, parce que voilà, et je commençais comme ça à avoir un cahier que j'appelais cahier de littérature que j'ai tenu en première année, deuxième année secondaire. Mais la chose, c'est que la plupart d'auteurs que je lisais dans cette anthologie-là, c'était je dis toujours que ça fait rire beaucoup de gens, c'était de né à mort à. Et donc, pour moi, la littérature, tu vois, c'était de personnes qui étaient déjà décédées, quoi. C'était,
oui.
Très souvent, c'était toujours né à mort à. Né à mort à. Et donc, je pouvais pas m'imaginer qu'on pourrait avoir un auteur jeune, voilà. Ça c'était vraiment jusqu'à ce que, quand j'arrive, voilà, quand je dois quitter le secondaire pour les humanités, donc pour choisir maintenant une section, j'ai dit à mon père que je vais faire la section littéraire, parce que j'avais vraiment comme option de devenir écrivain.
Oui.
Un jour, comme ça, par hasard, je tombe sur une mission, un documentaire sur TV5 Monde, et c'était pendant la semaine de la francophonie.
Oui.
Et c'était un document qui présentait Aimé Césaire, et puis le lendemain, c'était Senghor. Donc moi, c'était vraiment, voilà, je me suis dit, mais tiens, ma voix est trouvée, je voudrais bien être comme ces deux messieurs-là, parce que je sentais que j'avais toujours envie de parler, j'avais envie d'écrire, et donc ma vocation était trouvée, quoi.
Oui.
Mais quand j'ai dit à mon père, ça s'est pas passé facilement.
J'imagine, parce que ça nourrit pas beaucoup son homme, hein.
Exactement, oui. Donc c'était ça. Donc papa m'a fait raisonner, voilà, ça marche pas, donc... tu ne peux pas comme ça rêver de devenir écrivain. D'abord, tu ne pourras pas le devenir parce que qui va prendre en charge tes publications. Ça m'a fait réfléchir sur les contextes qu'il y avait à l'époque, quoi.
Oui.
Et voilà, je lui dis bon, ça va, je fais la session littéraire, mais bon, ok, on s'est mis d'accord que je ferai les droits. Mais j'aimais aussi bien sûr les droits. Mais déjà, quand j'embrasse la session littéraire, pendant que je suis élève, je commence déjà à écrire, vraiment, à écrire. Et petit à petit, je découvre le milieu littéraire, mais c'était mort comme à l'époque. Il y avait rien comme activité littéraire comme on le voit aujourd'hui à Kinshasa. Il y avait rien. Tous les auteurs, vous savez, c'était vraiment des aînés qui étaient maintenant dans l'enseignement, des professeurs. Il n'y avait pas des rencontres littéraires. Et c'est parti comme ça. Donc, je commençais à m'intéresser de plus en plus, jusqu'à découvrir des amis qui étaient aussi intéressés, qui écrivaient aussi. Et un jour arrive ces concours-là, donc ces prix-là, Mark Twain, c'est là vraiment, alors après les premiers déclics de l'anthologie, c'était là maintenant le deuxième et bon déclic, c'est que je prendrai part à ces concours-là.
Oui.
J'ai envoyé le texte, c'était de nouvelles, et au plus grand du grand hasard, donc je serai un des lauréats de ce mois-là, novembre. C'est un concours ouvert à tout le monde. Et quand je reviens à la maison avec le diplôme et l'enveloppe que j'avais reçue, donc mon père va me dire, mais tiens, je crois que cette fois-là,
ça commence à être intéressant.
Voilà, donc c'est comme ça vraiment que je suis venu à la littérature. Et puis voilà, je publierai mon premier recueil de nouvelles. Je vais mettre en place l'association des écrivains du Congo. Et voilà, et de là, tout est vraiment parti. Je suis resté dedans jusqu'à aujourd'hui. Mm-hmm. Voilà.
Ben, tu parlais de la littérature, la vie littéraire en RDC. Comment elle est aujourd'hui par rapport à quand tu as démarré tes études? Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que c'est resté pareil? Comment ça se passe aujourd'hui sur place?
Donc, en tout cas, non. Maintenant, il y a un vrai boom littéraire à Kinshasa. Il y a un écosystème qui est là. Il y a vraiment le réseau qui s'est installé. Oui. Il y a vraiment une communauté d'écrivains qui est là. Au moment où moi je découvre ma passion, je l'avoue, et c'est reconnu de tout le monde, hein, de tous les auteurs, de tous ceux qui sont dans les secteurs, parce que c'était vraiment une période de léthargie. Il y avait rien, il y avait rien. On a passé pratiquement 2 décennies comme ça. Après les années de gloire, on va dire les années pour la littérature congolaise, zaïroise, était vraiment dans son apogée, des années 70, années 80. On a passé les années 90 jusqu'à 2000 vraiment à vide, donc il y avait rien. Et maintenant, aujourd'hui, c'est moi, je crois qu'on est en train de vivre une période historique, et sûrement les gens vont le constater. On en parlera 10 ans après, 20 ans après, on verra les constats, parce que il se passe plus un jour où on parle d'un livre écrit par un Congolais, et les réseaux est là, on sait retrouver cet auteur-là, on sait voir le prouesse qui se font, que ce soit dans le pays et même dans la diaspora. Je crois qu'on est en train de vivre en tout cas une belle période de notre littérature. Évidemment, ça s'est fait de cette manière-là, mais ça permet aussi de se dire, mais en tout cas, demain, ce sera encore très bien construit. Maintenant, c'est un peu, voilà, ça bouge de partout, c'est pas très bien encadré, mais c'est intéressant. Moi, ce que...
Oui, mais comment tu expliques ce dynamisme qui revient petit à petit? Comment tu l'expliques?
Ah, est-ce que je saurais expliquer ça? Regarde ce que moi je fais comme constat. Avec nos amis, voilà, je suis à l'université, on lance un cercle littéraire de jeunes écrivains de l'université. C'est ça que le littéraire a permis à ce que les étudiants qui étaient, se découvrent, et puis ceux qui avaient la passion commencent à donner des conférences, et ça crée quelque chose. Petit à petit, on vient mettre en place une association des jeunes écrivains du Congo. Mais je pense, moi, j'ai toujours constaté que cette association-là a apporté quelque chose de fort dans l'écosystème. C'est que ça a permis que, parce que le jeune qui s'est retrouvé ici et là dans telle université, telle institution, l'information circulait tellement vite que ça leur permettait de venir aux rencontres. Donc, on pourrait comme ça avoir des rencontres qui réunissaient une centaine de jeunes, voyez-vous, et on allait des fois recourir aux aînés qui venaient aussi, voilà, c'est-à-dire qu'on permettait aux aînés de revenir. Et je crois que c'est très vite parti avec le Facebook aujourd'hui, voyez-vous, la communication est devenue très facile. On pourrait comme ça balancer une photo, une image sur les réseaux. Du coup, ceux qui écrivaient et qui étaient dans leur coin se disaient, mais tiens, ah, il existe une structure, il existe un cercle, il existe une association.
Et cette vie littéraire sur place au Congo, elle se traduit par quoi? Quels sont les événements? Ça se traduit comment concrètement sur le terrain?
Alors, il y a des associations. Hier, on n'en avait pas, on va dire comme ça. Il y avait que l'Union des écrivains du Congo. Mais aujourd'hui, on s'est retrouvé de petits salons. Je peux citer quelques structures. Voilà, il y a le café de Bissi. Je vous ai cité l'association des écrivains du Congo qui a vraiment apporté un vent nouveau qui a permis de ressusciter la chose. Il y a les cercles amis du savoir, il y a le salon du livre de Kourou Central, il y a le cercle Fumoboku, il y a les révoltés de la plume, il y en a vraiment, il y a beaucoup, il y a maintenant vraiment beaucoup de cercles, il y a des clubs de lecture dans différentes, différents coins de la capitale, que ce soit même dans le province, il y en a des associations qui sont là, même l'association des écrivains du Congo a des représentations provinciales. Ça fait que, voilà, donc, bon, en sus des associations, il y a des événements aussi, voilà. Il y a maintenant des événements qui sont réguliers. Par exemple, voilà, nous avons la grande rentrée littéraire de Kinshasa, que nous avons initiée, il y a le prix littéraire Zamenga. Il y a un moment où il y avait plus de prix littéraires, mais on sait quand même aujourd'hui les prix littéraires en RDC. Donc, je parlais du prix littéraire Zamenga, il y a le prix littéraire Makomi, il y a le grand prix congolais du livre, très récemment. Voilà, il y avait le...
Justement, parlons-en, hein, des prix littéraires, hein. Parce que tu fais partie de ceux qui vraiment œuvrent pour qu'il y ait des prix littéraires de qualité sur le continent et bien entendu aussi au Congo. Alors, j'ai envie de, on va pas parler de tous les prix, mais les deux que moi j'ai retenus, c'est le Grand Prix panafricain de littérature et le Grand Prix congolais du livre.
Oui.
Alors, particulièrement le Grand Prix panafricain du livre. Moi, je trouve que ça, c'est une idée exceptionnel.
Oui,
comment merci. C'est parti? D'où c'est venu? Raconte-nous tout.
Alors, ça c'est vraiment une, voilà, c'est exclusif. Juste là, j'avais pas encore raconté cette histoire dans un média quelconque. Ok, alors le Grand Prix panafricain de littérature. Comment commence ce parti? Donc je tout a commencé avec l'accession du président Félix Antoine Tshisekedi, dont notre président, à la tête de l'Union africaine. Donc voilà, pour un mandat d'une année, son mandat devra s'articuler sur la culture. Alors, au niveau du pays, on met en place, le président de la République met en place un panel en tout cas spécial qui devra accompagner son mandat à la tête de l'Union africaine. Alors, au niveau de ces panels-là, vraiment, je te raconte toute l'histoire pour que tu puisses bien, voilà.
Alors, c'est ce que je veux.
Voilà. Alors, au niveau de ces panels-là, il y a différentes branches. Et il y a une branche qui s'occupe de la culture.
Oui.
Alors, cette branche-là est confiée à un professeur de chez nous, voilà, grand historien africain, voilà, que, voilà, la plupart connaît très bien. C'est le professeur Isidore Ndaiwel, Isiem, en tout cas. Voilà, qui est chargé comme ça de diriger la branche culture. Alors, quand il arrive, voilà, dans cette commission-là, il fait venir le culturel du pays, donc, voilà, nous qui étions à Kinshasa, pour qu'on puisse comme ça échanger avec lui, mais aussi essayer de lui proposer des projets qu'il lui pourrait ramener au niveau du panel et donc proposer au président de la République. Donc on est réunis comme ça avec des artistes de tous bords, le musicien, le sculpteur, voilà, en tout cas tout le monde est là et tout le monde est en train de proposer de projets par rapport au mandat du président de la République. Et donc il arrive. Oui, les professeurs réunissent tout le monde et puis chacun se met à faire des propositions. Et arrive mon tour, et à mon tour, donc, je prends la parole, je dis, mais pour moi, j'estime que c'est l'occasion de marquer, en tout cas, l'histoire du continent, et, en créant un prix. Voilà. Je dis, en tout cas, et j'essaie d'argumenter, je dis, mais voilà, jusqu'à ce jour, le continent africain n'a pas encore un prix, panafricain, qui consacre le meilleur de ses auteurs, en tout cas. Et voilà, on a un prix qu'on appelle les grands prix littéraires d'Afrique noire. Mais seulement, moi, j'ai toujours déploré le fait que ces grands prix-là, évidemment, même les auteurs qui sont consacrés, qui sont des bons, mais seulement, c'est un prix, qui statue, à Paris. Voilà.
Oui.
Voilà. Donc, je trouvais cela quand même aberrant, quoi, là, 60 ans après les indépendances, on continue d'avoir un prix, même si dans cette association-là, on dit qu'il y a quelques Africains qui y sont. L'occasion est là que nous puissions créer un prix panafricain qui sera vraiment voilà le prix qui reconnaîtra, qui consacrera les auteurs africains. En tout cas, ça a été bien accueilli par le professeur. Il m'a dit, bon, ça va, on va voir ça après. Et sur le champ, j'ai dit, alors, si on fait un prix panafricain, ce serait très bien, mais après, ça sera pas intéressant. On sera critiqué de tous bords. C'est dit, voilà, le président arrive, il est président. C'est bien d'avoir un prix panafricain, mais on risque d'être critiqué par les nationaux parce que au niveau national, il n'y a pas un prix national. Alors on me disait, mais oui, il y a les prix Zamenga que tu as créés. Alors je leur ai dit, mais oui, au niveau national, parce que c'est moi qui les ai proposés, j'ai eu à mettre en place le prix Zamenga, mais ces prix-là n'a pas une valeur nationale parce que c'est quand même géré par la délégation Wallonie-Bruxelles, voilà, donc la bibliothèque Wallonie-Bruxelles où je suis responsable. Et à part ça, il y a le prix Macomi que j'ai aussi voilà rédigé les règlements, qui est quand même géré par l'Union européenne. Donc alors il faudrait qu'on ait des prix, en tout cas un prix authentique et qui est géré par les nationaux au niveau du pays. Alors, ça a été proposé comme ça, verbalement. Et une semaine après, les professeurs Ndaiwel va inviter encore le culturel. Et sûrement, il s'y attendait pas. Quand moi, je passe le voir, je reviens le voir avec le texte de ce prix-là. Donc, je reviens le voir, j'avais déjà tout écrit. Voilà, j'avais tout écrit. Alors il n'arrivait
Génial.
pas, il me dit, mais tiens, je dépose sur son bureau, sur sa table, parce qu'on échangeait à deux. Je lui dis, tiens, professeur, voilà les projets dont je vous parlais. Le premier, je l'ai appelé Grand Prix panafricain de littérature. Pour le prix panafricain, j'ai écrit le règlement du premier au dernier article que j'ai. Et j'ai fait pareil pour le prix congolais, du premier au dernier article, quand même le montant qu'on a remis, j'ai expliqué pourquoi est-ce qu'il fallait qu'on donne ce montant-là, parce que voilà, ailleurs il y a ça, j'ai fait des comparatifs et je dis voilà, jusque-là au continent on n'a pas encore ces prix-là, quand bien même je leur ai dit, moi j'avais même souhaité que ce soit plus de 100 000 dollars, parce que j'ai fait un comparatif au niveau du Nigeria, je crois qu'ils ont un
Je
prix
rappelle
national.
juste à ceux qui vont nous écouter que le prix est doté de 30 000 dollars américains.
Voilà, c'est 30 000 dollars. C'est vraiment un montant que j'avais proposé maintenant. C'était adopté tel quel. Et pour que la chose soit bien gérée, dans le règlement, j'ai dit il faut que que le prix soit géré par l'association du Grand Prix panafricain de littérature. Donc l'idée, c'était un peu de faire comme une sorte de comment on appelle ça, le Goncourt, où voilà, où il y a l'Académie Goncourt qui gère le Goncourt, et pareil pour le Grand Prix panafricain, c'était l'association du Grand Prix panafricain qui gérerait ces prix-là. Comme ça, ce serait géré par des auteurs, voilà, de différents pays, et donc géré en collaboration avec l'Union africaine. Donc c'est un prix qu'on remet officiellement à l'Union africaine, mais il faudrait que le culturel, les artistes, les écrivains soient là pour bien le gérer. Et j'ai insisté en disant, en tout cas, je n'arrêtais pas d'insister pour dire que ce sera un projet tellement original, parce que j'essayais de fouiller dans les archives, voilà, ce sera la première fois que, voilà, un président à la tête de l'Union africaine aura, comme ça, à penser aux écrivains de manière officielle, voyez-vous, en mettant en place un prix panafricain et en le dotant de ces montants-là. Mais voilà, tout peut se faire, on a déjà eu la musique, on a tout eu, mais très souvent, on a souvent oublié les écrivains, on a souvent oublié les penseurs, on a toujours oublié les auteurs. Donc l'occasion était là, en tout cas, de marquer l'histoire, et Dieu merci, vous avez vu que ces prix s'est réalisé. On a fait la même chose pour le prix congolais du livre. Donc je suis argumenté que voilà, le Congo n'avait toujours pas encore un prix national. Il fallait absolument un prix national. Finalement, ça a été aussi adopté. Donc les deux projets que votre le serviteur a proposé sont passés. Et donc aujourd'hui, dans l'histoire du continent, voilà, moi j'ai été très ému en tant qu'une fois au niveau de le TV5 Monde, l'émission Les Chiffres et les Lettres, on a posé une question, on parlait du président Fatih, on a dit, ouais, le président qui a mis en place les grands prix panafricains de littérature. Et donc, je dis, mais Donc, je dis, mais tiens, voilà,
génial.
Il y a un frère qui me disait, il m'a dit, mais Richard, mais tu te rends compte de ces projets-là? Je dis, oui, mais voilà, à chaque fois que j'entends, voilà, qu'on en parle, ça me fait quelque chose, quoi. C'est quelque chose qui est pour.
C'est magnifique. Oui, c'est magnifique. Je pense que tu n'as pas encore vraiment l'idée de la puissance de symbolique de ce prix. Franchement, quand vraiment. Moi je l'ai vu, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on n'y a pas vraiment. Pensé plus tôt? C'est incroyable que ce soit la première fois. Il est magnifique ce prix. Et quand j'ai vu en plus la dotation, bon, parce que parfois on a des prix, on met des grands titres derrière des prix, mais on ne met pas de la valeur qu'il faut dans les prix. Quand j'ai vu la dotation de 30 000 dollars, j'ai dit oui, ils sont dans la bonne direction. On commence par 30 000. Qui sait, demain, on peut arriver à 100 000. Qui sait, on a la capacité de le faire. Donc, moi, j'invite tous ceux qui vont nous écouter à supporter ce prix-là d'une manière ou d'une autre. On peut soutenir juste en partageant l'information. On peut soutenir en allant acheter les livres des gens qui ont été sélectionnés. Donc, il y a mille et une manières de soutenir un tel projet, voilà. Et alors j'aimerais savoir justement en parlant de dotation, comment est-ce que, d'où vient l'argent? Ce sont les pays de l'Union africaine affiliés à l'Union africaine qui versent une partie ou comment ça se passe?
Alors donc pour réunir ces montants là, la dotation de 30 000 balles, moi j'avais proposé voilà qu'on puisse pas se compliquer la tâche. Donc si on devrait. Vous savez, au niveau des États, on a quand même la possibilité de mobiliser des ressources et tout. Donc, pour un État, 30 000 dollars, c'est pas quand même quelque chose d'assez grave. Voilà. Et, autour de cette mandature-là, on était en mesure, et quoi que pour la première édition, ce n'est pas venu de, dans la suite, justement, on puis les fonds avec, voilà, la contribution des États membres. Ce serait quelque chose. Maintenant que le Sénégal, par exemple, a pris la tête de l'Union africaine, le Sénégal, c'est un grand État, de la culture. Je pense que le président Macky Sall, ou celui qui viendra, le président Macky Sall, qui est, voilà, à la tête de l'Union africaine maintenant, ne va pas du tout, négliger ses prix. Vous savez, c'est Mohamed est pris Goncourt et du Sénégal. Le Sénégal, c'est le pays de Senghor, c'est le pays de tous ces grands auteurs, Boubacar, Boris Diop. Je pense que le Sénégal a tout intérêt, en tout cas, à organiser la deuxième édition, à faire en sorte que ces projets puissent continuer. Ce serait honteux pour le continent africain si jamais cette initiative se limitait à sa première édition. Ça sera vraiment honteux pour nous. Je crois que on doit vraiment saisir cette opportunité. Moi, pour ma part, Assel, je regarde ces projets, voilà, comme un enfant qui est en train de grandir. Ma prière tout le jour, voilà, même pendant que c'était organisé, c'était, oh Dieu, j'étais l'homme le plus heureux, je crois que j'ai fait un post comme ça, le plus heureux de la terre, sincèrement. Le jour où je fus au niveau de Addis Abeba, on a remis le chèque, hein, le chèque à Madame Oswald, comme lauréate de la première édition du Grand Prix Panafricain de littérature. Je t'ai dit, ce jour-là,
je fais un peu ma pub, hein. C'est une Camerounaise, donc youhou, première édition, premier prix, c'est une Camerounaise. Ah ça, j'étais trop contente.
Absolument. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien parce que on doit se le dire, hein. Moi, je fais les décomptes, par exemple, avec le Grand Prix littéraire d'Afrique noire. Tu sais que en termes de lauréats, c'est le Cameroun qui est en train de battre les records jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez un grand pays de littérature. La culture littéraire est très bien ancrée dans le Cameroun. Moi, j'adore les auteurs camerounais. Donc, je savoure la plume de mon aîné, Patrice Nganang, comme pas possible. Je savoure la plume de Leonora Miano. Vous n'avez que des grands et des bons là-bas, quoi. Donc, c'est quand même quelque chose de fort. Et que la lauréate soit ou nous vienne du Cameroun pour la première édition, mais tiens, ça dit aussi tous les sérieux, des cas pour les éditions qui viennent. Il faudrait
Voilà, mon souci, mon souhait à moi, c'est que le prix s'étende sur le 6 langues de l'Union africaine, parce que cette édition, on n'était que sur le français et l'anglais, mais il faudrait, voilà, faut inclure l'arabe, faut inclure toutes les langues qui sont reconnues officiellement
Oui, le
de l'Union
portugais,
africaine, ça
oui.
fait la plus sérieux de ces prix.
Oui,
Et
l'espagnol.
voilà, vraiment, 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 c'est ça. Et le doter des moyens conséquents, que l'association du Grand Prix soit vraiment très impliquée alors dans l'organisation de ces prix-là, voilà un peu de choses que l'on souhaite pour la pérennisation de ces prix-là.
Ben, écoute, nous qui consommons, qui essayons de diffuser la littérature, on va inviter tout ce qu'on pourra à en parler, parce que je pense que le fait d'en parler, le fait de partager l'information, ça va aussi motiver les dirigeants à voir que, mais ils s'intéressent à ce prix. Nous-mêmes, ça nous ferait honte si on laissait tomber le prix. Donc, c'est aussi pour ça que je t'invite, hein, dans ce podcast, pour que on entende ce que tu as à dire, pour que les gens sachent qu'il y a des belles choses qui se font sur le continent. Et j'aimerais aussi maintenant parler du Grand Prix congolais du livre. Ça m'a particulièrement touchée parce que la lauréate de cette année, dans le prix, dans la catégorie fiction, c'est Lilia Bondy qui a écrit Am Sourire. Et ça m'a beaucoup touchée parce que je l'avais reçue dans ce podcast et son livre est un livre auto-édité. C'est rare d'avoir des prix littéraires de telle qualité qui acceptent comme candidat des livres auto-édités. Est-ce que tu peux en dire
En tout cas,
quelques
la
mots?
philosophie même du Grand Prix panafricain de littérature est aussi celle-là. Donc, c'est la même philosophie que j'ai voulu développer pour les deux projets. Le continent, tout comme voilà le pays, parce que le pays est dans le continent, souffre voilà du problème de déficit de maisons d'édition. Il y a pas assez de maisons d'édition et il y a pas aussi assez de maisons d'édition de qualité. Alors, la plupart d'ouvrages qui sont publiés sont très souvent auto-édités. Donc je me disais, mais oui, est-ce qu'on devrait voilà mettre de côté ces gens-là qui se battent à s'auto-éditer pour publier leurs livres. Je pense que c'était pour nous aussi l'occasion de leur permettre comme ça de proposer leurs textes. Mais seulement, c'était, voilà, même si c'est auto-édité, il faudrait que les livres soient publiés, voilà, en respectant toutes les normes de l'édition, toutes les exigences éditoriales. C'était un peu ça. Alors, l'essentiel pour nous, c'était le contenu, c'était prêt quand le lauréat ou la lauréate reçoit papier, après, ça permet, voilà, c'est booster ceux qui couragent. Les éditeurs locaux, mais aussi voilà.
Très bien. Alors, Richard, on va bientôt terminer notre échange. J'aimerais parler un petit peu, pour terminer, de ton travail dans la bibliothèque Wallonie-Bruxelles.
Alors, je travaille comme responsable de la bibliothèque, voilà, une Wallonie-Bruxelles, qui est aujourd'hui en tout cas un lieu de référence, on va dire sincèrement, pour la littérature congolaise, parce que cette bibliothèque a beaucoup apporté aussi. En tout cas, je suis là, on a fait beaucoup de choses pour la littérature congolaise. La plupart, tout le grand projet, en tout cas, dans le secteur du livre, nous sommes vraiment présents. Alors, mon travail à moi en tant que responsable consiste à gérer au quotidien cette grande bibliothèque publique. Donc, la gestion quotidienne consiste à superviser tout le travail qui se fait, voilà, l'acquisition des ouvrages, le traitement des ouvrages que l'on reçoit, que ce soit intellectuel ou technique, sa supervision. le contact avec le partenaire extérieur dans le domaine du livre, dans tout ce qui a trait au livre, toutes les sollicitations, tous les partenariats qui viennent à la délégation générale pour ce qui est du livre. C'est les responsables de la bibliothèque qui le gèrent. Je m'occupe aussi à proposer des activités, mais aussi des événements littéraires
Oui.
pour la bibliothèque et que j'anime aussi par ailleurs. Donc voilà, il y a à côté parmi voilà un peu le travail que je fais au quotidien. Alors en dehors de ça, comme je suis écrivain, c'est que voilà, il y a
Oui.
tout par là pour des orientations, voilà, pour leur baptême de livres, pour des activités, des associations littéraires qui viennent. Vraiment, nous sommes une plateforme pour la littérature en RDC.
Oui. Et selon ton observation et ton expérience avec cette bibliothèque, quel est le profil de lecteurs qui viennent dans la bibliothèque? Et est-ce qu'on peut l'étendre un peu au profil du lecteur de Kinshasa?
En fait, je le dis souvent, on va pas se tromper entre nous. Ce qui est vrai, c'est que la grande partie de lecteurs, hein, de lecteurs qui viennent au quotidien, à la bibliothèque, c'est vraiment des étudiants et des chercheurs. Donc, il s'agit comme ça, voilà,
Oui.
parce qu'ils ont des TP à faire, des travaux pratiques à faire, ils ont de travail de fin de cycle à réaliser, ils ont des mémoires, ils ont des... Voilà, ce sont ces gens-là qui sont quand même des lecteurs réguliers et qui viennent en grand nombre. Après, vous avez, parce que nous, notre bibliothèque se tourne de plus en plus, en tout cas, vers la littérature, donc vers la fiction. Donc, on voudrait être vraiment la référence en termes de fiction congolaise, de fiction africaine, de fiction belge et française, surtout belge. Et donc, on fait en sorte que on multiplie beaucoup d'activités littéraires pour vraiment ramener de lecteurs pour le roman ou les œuvres de fiction. Mais la réalité, c'est
Oui.
que le grand nombre de lecteurs, en tout cas la majorité des lecteurs, sont les étudiants, les élèves, les chercheurs. Voilà, c'est parce qu'ils doivent faire des travaux, donc ils
Oui.
viennent lire de manière indiquée, on va dire comme ça.
Alors, quels sont tes futurs projets? Là, tu viens de sortir un livre. Tu peux nous rappeler le titre du livre, s'il te plaît?
Oui, mon dernier roman, c'est Et les portes sont des bouches, publié aux éditions Mabiki du feu Bienvenue Sénémongaba, mon éditeur en tout cas. Voilà, je profite d'ailleurs de l'entretien pour saluer encore sa mémoire. Bienvenue Sénémongaba, c'est mon éditeur. Il venait de nous quitter au mois de février de cette année même. Et d'ailleurs, voilà, peut-être que je demanderai à ce que tu m'invites encore une autre fois pour qu'on parle un peu de l'initiative que je venais de lancer. Donc,
Volontiers.
pour honorer sa mémoire, mais aussi vraiment pour contribuer à la promotion de langues africaines, de langues congolaises, nous avons
Oui.
eu à penser à créer. Ça, c'est un autre prix encore que j'ai créé. C'est le prix
Oui.
Sénémongaba de littérature et sciences en langue congolaise. Donc,
Wow.
bienvenue Sénémongaba, c'est quelqu'un qui s'était vraiment battu, qui s'était vraiment plongé dans le combat pour la promotion de langue congolaise, donc dans la littérature. C'est d'ailleurs lui qui est mon éditeur pour mon roman Lingala, donc ce roman-là, Ibamba Kinshasa Makambo. Et donc
Ah,
nous
d'accord.
avons pensé mettre en place un prix littéraire pour maintenant inciter les gens à écrire aussi dans les langues congolaises. Donc la
Tout à
constitution de la
fait.
RDC reconnaît 4 langues congolaises comme étant de langue nationale. D'ailleurs, moi, je me demande
Oui.
toujours qu'est-ce qu'on attend pour essayer d'élever cette langue-là au rang de langue officielle. Vraiment, c'est ce que je ne comprends toujours pas avec nos gouvernements africains. Je ne sais pas si l'information que j'ai apprise récemment est vraie, mais je suis tombé sur un post comme ça dans un groupe WhatsApp où l'on disait que le Brésil venait de lever le Yoruba comme langue officielle. Vous imaginez? Bon, je ne sais pas.
Ah bon? Il faudrait que je vérifie cette information.
Je dois vraiment le vérifier. Oui. Je l'ai lu aujourd'hui, donc je dois le vérifier. Mm-hmm. Mais si cela est vrai, je pense qu'en tout cas, alors les États africains ont beaucoup de choses à rattraper, ou sinon on n'est pas sérieux nous-mêmes.
Tout à fait.
On comprend toujours pas comment, 60 ans après les indépendances, on a du mal à placer nos propres langues au rang de langue officielle. Vraiment, c'est, je comprends pas. Moi, il y a des choses que je n'arrive toujours pas à comprendre. Donc, 60 ans après l'indépendance, on a du mal nous-mêmes en tant qu'Africains, voilà, dans notre pays, de parler le lingala avec notre chef de l'État. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'à aborder la science dans nos langues. Vraiment, moi, des choses que j'arrive pas à réaliser. Voilà. Donc.
Et pourtant, si vous saviez comment parfois d'autres pays africains vous envient d'avoir au moins une langue que tout le monde comprend. Parce que chez nous, au Cameroun, on a la difficulté que on a différentes langues et il n'y a pas une langue que tout le monde comprend et parle. Donc, avec le lingala chez vous, au Congo, je trouve ça tellement, c'est un trésor. C'est un trésor pour le Congo.
Oui.
D'avoir une langue que tout le monde pourrait
parler.
Comprendre.
Oui, le lingala est une langue vraiment qu'on devrait, moi, ça pourrait devenir vraiment la langue du Congo, quoi. Après, c'est.
Tout à fait.
Voilà. Donc, mais il y a toujours un peu, je crois qu'on, il viendra sûrement un jour où on aura de dirigeants audacieux qui voilà taperont du poing sur la table. Bon voilà, on y va avec le lingala. Après, on pourrait aller avec le Tiluba, les Swahili, qui est déjà assez développé dans la partie orientale du continent. Mais voilà, le lingala a conquis pratiquement toute l'Afrique aujourd'hui. Quand vous allez au Kenya,
absolument.
Les gens adorent le lingala. Le lingala est là au Cameroun.
Même au Cameroun, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, je veux dire.
Voilà.
C'est ça la force de la culture.
Et on continue à traîner les pas pour ne pas élever cette langue-là au rang de langue officielle. Voilà. Donc, je disais par rapport à ce livre-là, c'est édité aux éditions Mabiki. Donc, c'est l'occasion où je signalais la disparition de ce savant qui est bienvenu Sénémongaba. Et donc, voilà, on a mis en place le prix Sénémongaba de littérature et langue en sciences et langue en langue congolaise, de littérature, pardon, et sciences en langue congolaise. Et peut-être, voilà, prochainement, si tu permets, en tout cas, on pourra revenir sur un salon littéraire pour parler de ces prix.
Bien sûr, c'est quand tu veux, Richard. C'est quand tu veux. Tu as ta place bien au chaud dans le salon du livre. Et c'est vraiment un très, très, très grand plaisir et un honneur de t'avoir ici et d'échanger avec toi. Parce que je pense que le travail que tu abats sur le terrain n'a pas de prix. C'est énorme. Et merci, hein, merci de faire ça pour nous. Parce que ce que tu le fais pas seulement pour les Congolais, tu le fais pour toute l'Afrique entière. Et puis, je te souhaite vraiment que tu réussisses ces projets et
bien
que
sûr.
Beaucoup de gens y adhèrent, comprennent les enjeux, te soutiennent et nous soutiennent parce qu'il s'agit de nous tous.
Vraiment.
Voilà. Et puis, merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation.
En tout cas, merci beaucoup, Yaya. Merci pour tout. Merci, merci infiniment. C'est aussi une belle occasion, en tout cas. Et pour moi, c'est aussi un honneur d'avoir échangé finalement des vives comme ça avec toi. Voilà. Donc, voilà la magie de la communication. J'apprécie beaucoup tes initiatives. Donc, je dis bon
merci.
Vent. Bon vent au Salon littéraire. Voilà. En tout cas, pour le podcast.
On va s'accrocher. On va y aller. Avec toutes nos forces, oui.
Et on ne sait jamais, peut-être un jour ça deviendra physique, donc salon littéraire de.
Bah, qui sait.
Qui sait. Merci infiniment, voilà. En tout cas. Merci beaucoup.
Merci. On se dit à bientôt et reviens quand tu veux.
Ok. Ok. Très bien. À très bientôt.